ennemi se sert de deux choses, qu'il sait exploiter d'une manière subtile. Il se sert du monde. Quel mal le monde a fait dans l'Assemblée. Quel mal. Et il se sert du moi. Personne ne nous connaît, ou nous ne nous connaissons pas comme Satan nous connaît. Il nous connaît depuis la chute. Et il sait exactement comment réveiller en nous toutes ces convoitises qui sont là. Et quand les convoitises agissent, alors c'est le trouble, c'est vous. Il ne produit pas les convoitises, il ne crée pas les convoitises, elles sont en nous. Mais il les réveille, il les amorce. Et ainsi, il nous conduit et nous dirige dans un chemin dans lequel, hélas, nous déshonorons le Seigneur. Combien nous aurons besoin d'entendre ces exhortations sérieuses pour que nous puissions prendre garde et tenir ferme à la gloire du Seigneur.
Se décourager, l'apôtre, pourtant après l'évocation d'une circonstance aussi triste, peut dire et rappeler aux Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Il l'avait déjà dit donc au début du chapitre 3, il le rappelle ici avec force, comme pour dire ce ne sont pas les circonstances qui doivent vous ôter votre joie intérieure, comme ce n'est pas en elles aussi que vous trouvez une joie constante. Même si vous pouvez vous réjouir dans certaines circonstances, et nous en trouvons quelques-unes dans les deux premiers chapitres, nous en trouvons aussi dans ce chapitre-là, au verset 10, par exemple, « Je me suis grandement réjoui. » Il y a des circonstances heureuses. Il y a aussi des circonstances qui font pleurer. Il y a des choses qui font pleurer les chrétiens, comme elle faisait pleurer l'apôtre au verset 18 du chapitre précédent. Mais la joie chrétienne, la vraie joie qui demeure, celle qui est là toujours dans le cœur, « Réjouissez-vous toujours », c'est la joie dans le Seigneur. C'est la joie que possède un croyant qui a l'œil fixé sur le Seigneur, qui n'est pas ainsi réjoui au gré des circonstances, mais qui est réjoui parce qu'il a devant lui Christ lui-même, celui dont l'apôtre prononce le nom pas moins de 17 fois dans le premier chapitre, celui qui doit être ainsi, celui qui nous réjouit constamment, toujours. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Nous voyons cet appel, cette exhortation à se réjouir dans d'autres épîtres. Nous la trouvons dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. « Réjouissez-vous toujours, dit l'apôtre, à ces Thessaloniciens jeunes dans la foi, et qui avaient bien des sujets d'être attristés, d'être douloureusement éprouvés, puisqu'il est dit au premier chapitre qu'ils avaient reçu la parole accompagnée de grandes tribulations, mais avec la joie de l'Esprit-Saint. Il n'est donc pas incompatible d'être heureux dans son cœur tout en étant dans la tribulation. C'est le Saint-Esprit qui donne la joie, c'est Christ qui la donne dans le cœur du croyant. Nous voyons aussi dans la seconde épître aux Corinthiens au chapitre 13, cette même exhortation, 2 Corinthiens 13, verset 11. « Au reste, frères, réjouissez-vous, au reste. Après, pourtant, tout ce que je viens de vous dire, après la tristesse dont je sais que vous avez été attristés à la suite de ma première lettre, mais c'était une tristesse selon Dieu, une tristesse à repentance, une tristesse dont on n'a pas de regret, ce ne peut pas enlever votre joie intérieure. Il y a aussi tous ceux dont je vous ai parlé, ces faux ouvriers, tous ces ouvriers trompeurs, tout ce que Satan peut essayer de faire dans l'assemblée pour la disperser et pour ainsi créer le trouble. Néanmoins, au reste, tout de même, réjouissez-vous. Il y aura toujours pour le croyant des sujets de joie, mais il y aura ce qui doit être permanent, la joie intérieure que nul ne peut ôter, que personne ne pouvait ôter à ces Philippiens qui eux aussi avaient souffert, auxquels il avait été donné de gratuitement de souffrir pour le nom du Seigneur, de souffrir pour lui, 1 Corinthiens, premier chapitre, verset 29. Ils avaient connu la souffrance aussi. Eh bien, réjouissez-vous toujours. Il y a cette joie intérieure que le Seigneur donne parce que c'est la sienne, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit accomplie, celle qu'il a connue lui-même, celle que connaît le croyant lorsqu'il vit dans cette sphère où le Seigneur se trouve, dans cette sphère céleste du chapitre 3e, dans cette sphère où il peut contempler le Seigneur de gloire, dans cette sphère du royaume de Dieu où tout est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint.
Donc, si notre joie découle des circonstances, circonstances heureuses, nous serons heureux, nous serons joyeux, et puis circonstances fâcheuses, c'est le découragement. Mais la joie dans le Seigneur peut être permanente, doit être permanente, parce que l'objet lui-même ne change pas. Et le Seigneur veut être, doit être l'objet du cœur du croyant. Paul en avait donné un exemple à Philippe même, puisque dans la prison, avec Silas, il chantait les louanges de Dieu sur le minuit. Il avait, dans cette prison, son sujet de joie. Il pouvait chanter des cantiques et les prisonniers les écoutaient. Ici, il est de nouveau en prison à Philippe, et c'est dans cet épître qu'il exhorte particulièrement à la joie. Il est ainsi dans des circonstances qui, par leur contraste, parlent en faveur de cette joie, qui montre bien que cette joie, il ne la trouvait pas dans ces circonstances, puisqu'il écrit du fond de sa prison. Sa joie est dans le Seigneur, et il peut ainsi exhorter les saints à avoir aussi ce même sujet de joie. Dans les Éphésiens, au chapitre 6, il nous est dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur ». Et si nous rapprochons de Néhémie 8, « La joie de l'Éternel sera votre force ». En effet, trouver sa force dans le Seigneur aussi nous rend indépendants des circonstances. Nous ne sommes pas dépendants des dons, mais du donateur. Et le donateur, lui, ne change pas. La personne même ne change pas. Jésus-Christ est le même. Et si notre joie est en lui, notre joie peut ainsi être permanente. Un croyant qui passe par des épreuves est un témoin plus puissant de la joie que le Seigneur donne par le fait de ses circonstances. Et c'est bien propre à encourager ceux de nos frères et sœurs qui passent par la peine, par les épreuves.
Il y a un verset dans le livre des psaumes qu'il convient de citer à la suite de ce que nous entendons. C'est au psaume 4, dont la détresse et la confusion générale. Le psalmiste David, souviens-toi de David et de toutes ses afflictions. Nous n'oublions pas cette demande de David. Il y en a quelques-unes dans le psaume 4. Mais que dit-il? Au verset 7, tu as mis de la joie dans mon cœur. Christ, la source de la joie. Au sein de la détresse, de la confusion, de toutes les circonstances les plus difficiles, David nous dit, toi, le Seigneur, tu as mis de la joie dans mon cœur. Et quel est le ton de cette joie, le niveau de cette joie? L'avez-vous remarqué? Plus qu'au temps où leur froment et leur mou ont été abondants, c'est-à-dire une joie qui dépasse infiniment que tout ce que l'on pouvait trouver dans les circonstances les plus favorables.
L'apôtre Paul veut dire, en 6 la seconde aux Corinthiens, attristé mais toujours joyeux. Attristé mais toujours joyeux. La joie est dans le Seigneur. Effectivement, c'est la seule joie. Et une joie qui demeure, et une joie qui est toujours offerte au cœur. Mais le Seigneur peut employer et emploie, et nous sommes appelés à en bénéficier, les siens, à se réjouir les uns les autres. L'apôtre Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », et puis il s'est réjoui dans le Seigneur. Et c'est bien remarquable, mais il peut dire aux Philippiens « Vous êtes ma joie ». Le verset 1, vous êtes ma joie et ma couronne. Et il peut s'adresser à eux en disant, rendez ma joie accomplie. Les encouragements du Seigneur, il aime à les donner par les siens. Il aime et il voudrait que nous nous apportions toujours les uns aux autres de la joie. Il y en avait qui lui apportaient de la tristesse. Il pleurait sur eux. Mais l'ensemble des Philippiens le réjouissait. Il peut le dire. Il pouvait faire des supplications à leur égard avec joie. Et je répète, il s'adressait à eux pour qu'ils rendent sa joie accomplie. Et alors tout ce qui vient troubler la communion, et tout ce qui vient semer quelques défiances, quelques réserves, tant de choses, n'est-ce pas, nos cœurs naturels ne les accueillent que trop, vient empêcher la joie. De même que la joie dans le Seigneur ne peut être que véritablement goûtée que dans la communion du Seigneur. De même, la joie dans les saints ne peut être vraiment goûtée que dans la mesure où la communion à laquelle nous sommes appelés est réalisée. Ma joie et ma couronne. Plus loin, il pourra dire, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre votre pensée. La joie dans les saints, c'est une forme de la joie dans le Seigneur. C'est un effet de la joie dans le Seigneur. Tout revient au Seigneur lui-même, à n'en pas douter. De même que la même pensée est dans le Seigneur, pour Évodie, pour Saint-Tiche. Alors, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Alors tout naturellement, nous comprenons que vienne ensuite cette exhortation, que votre douceur ne soit connue de tous les hommes. La dureté de cœur, de parole, de caractère, n'engendre pas la joie. Il faut cette douceur, cette débonnaireté, car cela correspond à la débonnaireté du Seigneur, et sur les droits du Seigneur, sur la vérité de l'Écriture, et sur les bases fondamentales de la foi, assurément. C'est un autre côté des choses. Mais la douceur qui est liée au véritable renoncement à soi-même. Comme la note l'indique, n'est-ce pas, le caractère d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Non pas qu'il ne fasse pas valoir ses droits lorsque cela est légitime dans les affaires de la vie. Chaque jour, nous sommes appelés à faire valoir nos droits, mais qui n'insiste pas sur ses droits. Qui n'insiste pas, et qui, même s'il est lésé, eh bien l'accepte. C'est autre chose que d'agir suivant les droits que nous avons au titre d'habitant de ce monde.
Qui nous met au pied du mur, ce mot-là, de ne pas insister sur ses droits, et du moment que nous sommes des citoyens du ciel, il est tout normal que nous n'insistions pas en aucune manière dans les droits que nous pourrions avoir sur la terre. Il vaut mieux, comme le Seigneur lui-même l'avait fait dans le chapitre 3 de la première épître de Pierre, nous avons un verset où il nous est dit, Christ, verset 20 au chapitre 2, car quelle gloire y a-t-il si souffrez pour avoir mal fait, vous l'endurez, mais si en faisant le bien, vous l'endurez, vous souffrez, et que vous l'enduriez, cela est digne de louange devant Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés, car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Ainsi, nous avons en lui le modèle. Et dans l'évangile de Matthieu, nous avons encore un autre passage où il nous est dit un peu les mêmes choses. Je crois que c'est au chapitre 5. Oui, au chapitre 5, verset 39. Ne résistez pas au mal. Mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et à celui qui veut plaider contre toi et t'ôter ta tunique, laisse-lui emporter le manteau. Et si quelqu'un veut te contraindre de faire un mille, vas-en deux avec lui. Donne à qui te demande et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. Nous avons là des passages très sérieux et très solennels et nous avons à nous poser la question dans quelle mesure nous les réalisions. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas notre patrie. Nous sommes du ciel et par conséquent, nous ne devons pas insister sur nos droits. Le Seigneur, juste juge, donnera la récompense quand il le trouvera bon à ceux qui auront supporté ces choses. Et lui-même est le modèle.
Cette exhortation est intéressante parce qu'elle vient juste après le rappel de la joie permanente que l'on peut trouver dans le Seigneur. Et par conséquent, quelqu'un qui trouve sa joie permanente dans le Seigneur, il peut se laisser dépouiller d'une chose dans laquelle n'est pas sa vraie joie, une chose terrestre. Et puis ensuite, il nous a dit, le Seigneur est proche. Le rappel du retour imminent du Seigneur qui nous fera laisser tout ce à quoi nous pourrions nous cramponner sur la terre, fait aussi que nous n'avons pas de raison d'insister sur nos droits. Et ainsi, l'Esprit de Dieu place devant nous, comme toujours, un objet plus précieux qui nous permet de ne pas insister sur nos droits parce que nous avons quelque chose de plus précieux pour le cœur. Dans les Éphésiens, nous avons quelque chose de semblable. Le chapitre 4 commence par les exhortations pratiques suite de ce qui a été présenté dans les trois premiers chapitres, le rappel de nos trésors, des immenses richesses, de la grâce et de la gloire. Tout cela a été présenté au cœur du croyant pour lui rappeler combien il est riche. Et alors au début du chapitre 4, il nous est dit que nous avons évidemment à marcher d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés. Il est ajouté avec toute humilité, parce que nous pourrions nous élever dans nos cœurs en disant, eh bien, nous possédons tout cela, nous avons été choisis par le Seigneur et élevés à une telle dignité, humilité, et puis aussitôt après la douceur, justement parce que ayant de telles richesses, nous n'avons pas de raison de nous attacher tellement aux choses de la terre.
Dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de David, qui possède un très beau caractère à cet égard. Pendant l'absence de David, il a adopté l'attitude d'un homme qui aime David, qui aime le Seigneur. Il n'avait pas soigné, il n'avait pas lavé ses vêtements, n'avait pas fait sa barbe, etc., etc. Puis voilà David qui revient. Et David s'est un peu mépris sur l'attitude de Méphibosheth et il lui demande « Pourquoi n'es-tu pas allé avec moi ?» Et Méphibosheth va expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu suivre le roi, trompé comme il l'a été par son serviteur. Et nous n'allons pas lire tous ces versets, mais chacun pourra les lire avec intérêt. Et à un moment donné, David va se méprendre sur la manière de parler de son serviteur. Il croit comprendre que Méphibosheth, d'une manière sans doute habile, intelligente, réclame quelque chose. Car cet homme, Méphibosheth, a dit à David, « Et quel droit ai-je encore, et pour quel sujet crierai-je encore au roi ? Et le roi dit, pourquoi me parles-tu encore de tes affaires? C'est donc de Samuel 19 que nous lisons, verset 29. Je l'ai dit, toi et Tsiba, partagez les champs. Alors voilà la réponse de Méphibosette, qui nous semble entrer dans, comme illustration dans ce que nous avons devant nous maintenant. Et Méphibosette dit au roi, que Tsiba prenne même le tout. Si j'ai le bonheur d'être à nouveau auprès de David, auprès du roi, auprès de mon bienfaiteur, qu'il prenne même le tout, puisque le roi, mon seigneur, est revenu en paix dans sa maison. Si j'ai David, si je jouis de la présence de David, si je jouis de la bonté de David, que peut me faire les champs que Tsiba m'a ravis? Qu'il prenne même le tout du moment que je possède David.
Le terme douceur que nous avons ici se trouve plus d'une fois dans le Nouveau Testament. On a rappelé le passage qui se trouve au début du chapitre 10e de la deuxième épître aux Corinthiens. L'apôtre dit ceci, « Moi-même, Paul, je vous exhorte par la douceur et la débonnaireté du Christ. » Nous avons ce même terme, que votre douceur soit connue tous les hommes, et nous le répétons, il y a d'autres passages, du reste le passage qui a été cité dans la première épître de Pierre au chapitre 3 est également le même mot douceur traduisant le même terme dans l'original grec. Je ne sais pas, peut-être qu'un frère pourrait nous dire quelque chose sur ces différents passages où il est parlé de la douceur. Dans le sens de notre passage de Philippiens 4, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais pour parler de celui de 2 Corinthiens 10, « Or, moi-même, Paul, je vous exhorte par la douceur et la débonnaireté du Christ. » Nous croyons comprendre ce passage en voyant l'apôtre regardant au Seigneur à sa douceur, à sa débonnaireté, et l'apôtre désire imiter une telle douceur parfaite, une telle débonnaireté, pour s'adresser aux frères à Corinthe qui, d'après le contenu de ce chapitre 10, discréditaient l'apôtre et d'une façon fort pénible. Eh bien, l'apôtre ne va pas réagir en disant « c'est pas vrai ce que vous dites, je suis ainsi, ainsi, je parle ainsi, je fais ainsi ». Non, mais voici, moi, Paul, par la douceur et la débonnaireté du Christ, eh bien, je vous exhorte, et nous avons tout le contenu de ce chapitre. L'apôtre Paul est un exemple, pensons-nous, d'un serviteur qui n'insiste pas sur ses droits. Il regarde à la débonnaireté, à la douceur du Christ, et il désire imiter cette douceur en s'adressant à des hommes, comme les frères à Corinthe, qui ne cessaient de discréditer son ministère. Vous connaissez peut-être un peu ces passages où nous a parlé de la douceur, traduisant le même terme grec. Je
connais par cœur au moment seulement un exemple dont vous venez de nous raconter, un exemple de la vie de notre Seigneur. Ce n'est pas seulement l'exemple de l'apôtre qui nous présente en cet épître, mais spécialement l'exemple de notre Seigneur. Il faut que cette pensée soit en nous qui était dans notre Seigneur Jésus-Christ, Philippiens 2. Je crois que dans l'évangile de Luc, chapitre 9, nous y avons un très bon exemple où le Seigneur n'avait pas insisté sur ses droits. Dans le chapitre 9, verset 51, il arriva comme les jours de son assomption s'accomplissaient, qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem, et l'envoya devant sa face des messagers. Et s'en étant allés, ils entrèrent dans un village de Samaritains pour lui préparer un logis. Nous connaissons l'histoire. Nous avons aussi comment les deux disciples, dans le verset 54, avaient dit, « Seigneur, veux-tu que nous disions que le feu descende du ciel et les consume comme aussi Fiteli ?» Voilà une excuse de la Bible. Ça sonne bien, mais ce n'était pas spirituel. Elle n'était pas dans la position d'Élie de dire une telle chose. Et voilà l'exemple de notre Seigneur, un exemple spirituel. Et se tournant, il les censura fortement et dit, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Et ils s'en allèrent à un autre village. Ils n'insistaient pas sur ses droits. même les droits normaux pour quelqu'un dans l'Orient pour demander de l'hospitalité. Et ce n'était pas seulement un autre normal, c'était notre Seigneur. Mais voilà son exemple. Et aussi un exemple de l'apôtre Paul à Philippe, dans le livre des Actes, dans le chapitre 16. Nous savons que beaucoup plus tard, à Jérusalem, il insistait bien à ses droits. Ses droits d'être romain, et alors il ne pouvait pas recevoir des coups de bâton. Mais ici, dans le chapitre, je ne veux pas juger ses motifs à Jérusalem, mais en tout cas, ici, dans le chapitre 16 de Livre des Actes, nous voyons que, dans le verset 23, « Et leur ayant fait donner un grand nombre de coups, ils les jetèrent en prison. » Voilà, il aurait pu si insister sur ses droits, puisqu'il était un Romain, alors c'était impossible d'être puni d'une telle manière. Mais il n'a pas fait. Autrement, seulement après qu'il était libéré, le lendemain, il insistait sur ses droits, à ses droits. Mais point pour lui-même, point dans sa propre intérêt, mais pour l'intérêt de l'œuvre du Seigneur. Et alors, il exigeait, comme nous le voyons dans le verset 36 et 37, Paul leur dit, « Après nous avoir fait battre publiquement, sans que nous fussions condamnés, nous qui sommes Romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous mettent dehors en secret. Non certes, mais qu'ils viennent eux-mêmes et qu'ils nous mènent dehors. » Ça, ce n'était pas un insister sur ses droits pour son propre intérêt, comme j'ai dit. Mais c'était l'intérêt de l'œuvre du Seigneur. Ça doit être publiquement montré qu'il était un serviteur du Seigneur. Et alors, pour l'intérêt de cette œuvre, il demandait ce droit. Mais combien c'est important, puisque quand nous insistons à nos droits, c'est sur nos droits, en général, c'est puisque il s'agit de nos propres intérêts. Alors, nous agissons pour nous-mêmes. Mais ici, nous voyons que d'abord le Seigneur, et après aussi son apôtre, avait agi seulement à la gloire de Dieu. Et dans le cas de l'apôtre, à la gloire du Seigneur.
Apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur. Ce n'est pas l'équivalent comme terme de la douceur, ni en français, ni dans l'original, mais c'est la même pensée. La débonnaireté, l'humilité, voilà ce qui convient et qui accompagne cette douceur qui était le propre de la personne même du Seigneur Jésus. Apprenez de moi.
Bien, nous arrivons au terme du temps qui nous est assigné pour notre réunion. L'expression « le Seigneur est proche » est d'une expression d'un sens large. Ce n'est pas seulement la pensée de la venue du Seigneur qui est proche, comme il est dit dans l'épître de Jacques, affermissez vos cœurs, la venue du Seigneur est proche. Mais il y a cette pensée que le Seigneur est proche, toujours proche des siens et de ceux qui prient en particulier, qui exposent leurs requêtes, leurs besoins, leurs supplications avec des actions de grâce. Le Seigneur est proche, il est près de nous. Il est près de nous, soit pour nous aider dans ce qui est si difficile à réaliser, cette non-insistance sur nos droits, ce qui est donc dit avant, et puis également pour nous encourager à ce que, comme un ami parle à son ami, nous nous inquiétons de rien, mais en toute chose, nous exposions nos requêtes à Dieu. Ce passage se trouve là, entre ces deux exhortations, et il y a la pensée de la proximité du Seigneur. Il est près de nous, toujours près de nous. Il est proche de nous. Bien entendu que la pensée de la proximité de la venue du Seigneur nous réjouit toujours, nous réjouit beaucoup. Et il y a là également, dans le fait que le Seigneur vient, un grand encouragement à rendre témoignage quant à la non-insistance sur nos droits et quant à l'exercice de la dépendance constante auprès de notre Dieu.
Il est proche dans le temps.
Et il est proche, on peut dire, dans l'espace.
toujours avec nous. Et le terme original, Angus, a exactement les deux sens, comme en français.
Diable, cœur humain du Sauveur, fidèle et secourable, chantons ces versets dans le 117.
aux Philippiens, chapitre 4, reprenant verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées. Ce que vous avez et appris et reçu et entendu et vu en moi, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce que maintenant, enfin, vous avez fait revivre votre pensée pour moi. Quoique vous y ayez bien aussi pensé, mais l'occasion vous manquait. Non que je parle ayant égard à des privations, car moi j'ai appris à être content moi-même dans les circonstances où je me trouve. Je sais être abaissé, je sais aussi être dans l'abondance. En toutes choses et à tous égards, je suis enseigné aussi bien à être rassasié qu'à avoir faim, aussi bien à être dans l'abondance qu'à être dans les privations. Je puis toutes choses en celui qui me fortifie. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Or, vous aussi, Philippiens, vous savez qu'au commencement de l'Évangile, quand je quittais la Macédoine, aucune assemblée ne me communiqua rien pour ce qui est de donner et de recevoir, excepté vous seuls. Car même à Thessalonique, une fois, et même deux fois, vous m'avez fait un envoi pour mes besoins. Non que je recherche un don, mais je recherche du fruit qui abonde pour votre compte. Or, j'ai amplement de tout, et je suis dans l'abondance, je suis comblé, ayant reçu d'Épaphrodite ce qui m'a été envoyé de votre part. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice acceptable, agréable à Dieu. Mais mon Dieu suppléra à tous vos besoins selon ses richesses en gloire, par le Christ Jésus. Or, à notre Dieu et Père soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Saluez chaque saint dans le Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux qui sont de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.
La joie qui peut et doit être un des caractères éminents du croyant, du chrétien qui peut toujours se réjouir dans le Seigneur. En dehors du Seigneur, il ne peut pas y avoir de joie véritable. Et si il y a vraiment le bonheur trouvé dans la communion avec le Seigneur Jésus, mais les caractères du Seigneur lui-même se montreront dans les besoin de cette paix de Dieu, celui qui est le Dieu de paix, nous le retrouverons à la fin du second, pas du troisième paragraphe, et cette paix va garder vos cœurs, vos pensées dans le Christ Jésus. Nous en étions restés à ce verset 6 et verset 7, nous n'avions pas abordé, et il y a certainement quelque chose à nous être donné concernant ces prières, ces supplications, les actions de grâce, de telle sorte que non seulement l'inquiétude soit bannie, mais la paix qui surpasse toute connaissance, toute possibilité de pensée de notre esprit, gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. cette paix était placée devant nous comme une garde dans le sens militaire du terme, comme une sentinelle gardant notre forteresse, la forteresse intérieure de nos cœurs. Mais, de sorte que nos cœurs et nos pensées soient tenus dans le Christ Jésus, tout ce qui est étranger à lui étant tenu pour quelque chose d'étranger et de dangereux, si nous sortons, si je puis parler ainsi, de cette forteresse que j'évoquais tout à l'heure.
Nous avions vu que ce qui doit nous réjouir, ce n'est pas ce que le Seigneur nous donne, mais c'est ce qu'il est. Nous nous réjouissons dans la personne et pas seulement dans les dons de cette personne. Réjouissez-vous dans le Seigneur. À propos de l'inquiétude, nous avons la même chose dans un verset d'Ésaïe 41. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains point, car je suis avec toi. Ne sois pas inquiet, car moi je suis ton Dieu. Ce n'est pas ne sois pas inquiet parce que tes circonstances s'arrangeront, parce que je te donnerai de la délivrance. Non, ne sois pas inquiet parce que je suis ton Dieu et par conséquent la relation que tu as avec moi doit te donner confiance. Je suis toujours le même Dieu puissant, celui sur qui tu peux vraiment te reposer. Alors l'inquiétude est banni du cœur. Ne vous inquiétez de rien, c'est absolu. Réjouissez-vous toujours, en tout temps, quelles que soient les circonstances. Ne vous inquiétez de rien, quelles que soient les circonstances aussi. Elles peuvent être menaçantes, elles peuvent être décourageantes, mais voilà. Ne vous inquiétez de rien. Vous avez un Dieu qui est au-dessus de toutes circonstances, un Dieu fidèle.
À cet égard, on peut souligner la différence qu'il y a entre la paix de Dieu et le Dieu de paix. La paix de Dieu, c'est un don qui vient de Dieu et qui est certes d'un prix infini. Mais ce qui est encore plus grand, c'est celui qui donne, le Dieu de paix. Et il est remarquable que de voir dans ces versets que les deux vérités sont là, la paix de Dieu qui garde nos cœurs et puis la présence du Dieu de paix à la fin de la linéa suivante. Ne vous inquiétez de rien, c'est là un sujet qui nous édifie toujours d'entendre ce que la parole de Dieu nous dit à l'égard de l'inquiétude et les ressources qui sont en Dieu. Quand nous nous trouvons pas seulement inquiets, mais véritablement tourmentés. Il a été donné au sage, au roi Salomon, de dire déjà, dans un verset qui est rappelé volontiers, au chapitre 12 du livre des Proverbes, il nous est dit que l'inquiétude dans le cœur d'un homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Verset 25, l'inquiétude dans le cœur d'un homme là-bas. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que ce que nous avons sous les yeux maintenant, dans ce toujours édifiant chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, nous avons là cette bonne parole qui non seulement apaise l'inquiétude, mais même donne la joie dans le cœur. Une bonne parole réjouit cet homme qui est inquiet, qui est même abattu par l'inquiétude. Il en est parlé également dans le livre du prophète Ésaïe. Notre frère vient de citer le passage, un passage combien réconfortant et combien nous aimons entendre cette parole qui réjouit de la part de Dieu. Ne sois pas inquiet. Et trois fois, dans l'espace de cinq versets, en Ésaïe 41 donc, trois fois, Dieu nous fait entendre cette bonne parole qui réjouit. Je t'aiderai, je t'aiderai trois fois dans cinq versets seulement. Et alors, entre deux, ne sois pas inquiet, ne crains pas, ne sois pas inquiet, je suis là pour t'aider. Un autre prophète a été amené à parler de l'inquiétude, mais alors dans un sens un peu différent. L'Éternel a demandé au prophète Ézéchiel d'accomplir un acte coutumier, mais d'une manière symbolique, c'est-à-dire manger son pain dans le trouble et boire son eau dans l'inquiétude. Pourquoi est-ce que le prophète Ézéchiel devait faire cela? Pour que les enfants d'Israël sachent qu'un jour, ils connaîtraient une inquiétude profonde, et que même s'il s'agit simplement de prendre un repas, ils devraient manger dans le trouble, et ils devraient prendre leur breuvage dans l'inquiétude. En Ézéchiel 12, nous trouvons cet appel de Dieu à son serviteur. Et puis, il nous est dit également, c'est le Seigneur Jésus qui n'emploie peut-être pas directement le mot inquiet ou le mot inquiétude, mais plus d'une fois, le Seigneur nous invite à ne pas être en souci. Il y a en tout cas deux passages dans l'Évangile selon Matthieu, dans l'Évangile selon Luc aussi, où il nous est dit, soit en rapport avec les besoins de la vie présente, ne soyez pas en souci à l'égard de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de ce dont vous vêtirez. Ne soyez pas en souci, mon Père connaît tout ce qui vous est nécessaire et donnera ce dont vous avez besoin. Alors en rapport avec le témoignage, avec le service, un peu plus loin en Matthieu 10, le Seigneur dit, ne soyez pas en souci à l'égard de ce que vous direz quand vos ennemis s'acharneront après vous et entraveront le service que vous désirez accomplir pour la gloire de Dieu. Ainsi donc, s'il s'agit des nécessités de la vie présente, s'il s'agit du témoignage, du service que le Seigneur nous a confié, auquel il nous appelle, eh bien, sa voix se fait entendre. C'est également cette bonne parole qui réjouit le cœur, qui si facilement peut être inquiet et même abattu par l'inquiétude. Ne soyez pas en souci.
Le passage que nous avons sous les yeux, c'est qu'il n'est pas question d'une pensée qui nous élève au-dessus de toute connaissance humaine, et même de connaissance de l'homme renouvelé. L'esprit même, c'est un de ces mots difficiles à traduire, la pensée. La pensée au-dessus de toute chose, et c'est ce qui garde alors nos cœurs et nos pensées et dans le Christ Jésus. C'est une opération de l'Esprit lui-même dans notre esprit pour nous tenir ainsi exempts d'inquiétude.
Mais, terme intelligence, ne pensez-vous pas, ou bien peut-on dire que si il est donné à l'apôtre d'employer ces termes, de parler de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ne pouvons-nous pas humblement ajouter ceci? Quelle est l'intelligence qui serait capable de comprendre ce qu'est cette bénédiction infinie, la paix de Dieu?
La parole de Dieu nous élève ici à ce niveau, n'est-ce pas? Et aucune intelligence dans un homme, aussi pieux qu'il soit, n'est capable d'entrer dans tout ce que représente la paix de Dieu.
À l'égard de l'inquiétude, nous aimions citer un verset, deux versets, qui sont très précieux et qui montrent dans le détail les soins du Seigneur pour que cette inquiétude soit bannie de notre cœur. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10 et au verset 29, le Seigneur prend à témoin les passereaux, et il pourra dire, en parlant des soins du Père envers eux, que nous valons beaucoup mieux que les passereaux. Mais la manière de parler de Matthieu et de Luc, conduits l'un et l'autre par l'Esprit de Dieu, est bien propre à renforcer ce sentiment de confiance que le Seigneur nous demande en lui et en sa bonté, chassant ainsi toute inquiétude de notre cœur. Dans Matthieu, chapitre 10, le Seigneur dit « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, et pas un seul d'entre eux ne tombe en terre sans votre Père. » Dans Matthieu, on vend donc deux passereaux pour un sou, et pas un seul ne tombe en terre sans la volonté de notre Père. Dans l'Évangile selon Luc, le verset est un peu différent, mais la différence sert à renforcer le sentiment que nous venons d'entendre tout à l'heure. Au verset 6 du chapitre 12, le Seigneur dira « Ne vend-on pas cinq passereaux pour deux sous ?» Donc au lieu de vendre deux passereaux pour un sou, on en donne cinq pour deux sous. Cela veut dire qu'il y en a un que le marchand ne compte point. Vous en prenez pour deux sous, au lieu de vous en donner quatre, en voilà cinq. Et à l'égard de celui que les hommes ne comptent pas, qu'ils donnent, comme on dit, par-dessus le marché, c'est de celui-là que le Seigneur dit « et pas un seul d'entre eux ». L'expression est renforcée par rapport à Matthieu. Pas un seul, même celui que l'homme ne compte pas, pas un seul d'entre eux n'est oublié devant Dieu. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas. Comme cela est bien propre à renforcer ce sentiment de confiance et par conséquent bannissant l'inquiétude de notre cœur. Encore un petit exemple dans l'Ancien Testament à cet égard. Un homme de Dieu comme Élisée se trouve aux prises avec des difficultés qui étaient bien propres à faire fondre le cœur de qui que ce soit. Nous lisons ce récit dans 2 Rois 6. Chacun pourra le lire à son aise, à la maison. Mais son jeune homme vient lui dire « Mais voilà la ville entourée d'une armée innombrable, des chevaux, des chars. » Le jeune homme vient dire à Élisée « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Comment ferons-nous ? Devant des circonstances aussi tragiques, aussi dramatiques et qui nous privent de tout espoir de salut. » Que va répondre le croyant, l'homme de Dieu ? Seigneur nous dit ce qui se passe dans le cœur d'Élisée. Et il dit, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec nous. Et Élisée pria, et il prie pourquoi ? Dans le verset 17, il prie-t-il pour que les armées soient défaites tout de suite, que Dieu délivre la ville ? Non. La confiance de cet homme dans la bonté de Dieu, dans la providence de Dieu, dans les soins de Dieu, le porte à prier pour que son jeune homme soit élevé à la même perception des choses que lui. Et il pria et dit, Éternel, je te prie, ouvre les yeux du jeune homme afin qu'il voie. Ouvre les yeux du jeune homme afin qu'il voie les ressources que tu as par devers toi, qui sont invisibles pour l'homme, mais qui sont bien de nature à nous remplir de confiance et de quiétude. Qu'est-ce que ces chars? Qu'est-ce que cette armée? Qu'est-ce que cette innombrable manifestation, cette manifestation de la puissance de l'ennemi? Le Seigneur est bien au-dessus d'elle. Et enfin, Élisée priera plus loin, il pria l'Éternel et dit, « Je te prie, frappe cette nation de cécité et toute cette armée, il va la conduire comme un petit enfant à la place de Samarie, au lieu d'être terrorisé par toute cette démonstration de la puissance de l'ennemi, c'est lui qui va les conduire par la main, comme on conduit un aveugle. » La paix de Dieu remplissait le cœur de cet homme.
Dans ce début du paragraphe.
La paix dont on a parlé justement dans notre prière en nous adressant à Dieu, la paix avec Dieu, elle est intouchable, elle reste toujours la paix avec Dieu. Mais certainement ce que nous connaissons moins dans notre vie chrétienne, c'est la paix de Dieu, où c'est encore la présence du Dieu de paix. Ce qu'il faut nous demander, est-ce que nous connaissons un peu dans nos cœurs cette paix de Dieu? C'est une chose remarquable, c'est un amour si précieux que l'amour de notre Dieu, qui prend connaissance de tous nos besoins, de toutes nos circonstances, et qui sait apporter le moyen ou le remède à tout ce que nous pouvons, à tous les maux que nous pouvons rencontrer. Dieu s'approche de nous. S'il y avait simplement ceci, ne vous inquiétez de rien. Oh, ne vous inquiétez de rien. Il y en a des choses qui inquiètent le cœur. Mais l'apôtre continue, ne vous inquiétez de rien, ce n'est pas l'indifférence qu'il faut. Ouvrez votre cœur devant Dieu. Mettez-le à nu devant Dieu. Apportez à Dieu tout votre fardeau, toute votre peine, tous vos soucis, toutes vos inquiétudes. À quel Dieu? Un Dieu qui connaît la fin d'une chose dès le commencement. Un Dieu qui tient tout dans sa main. Un Dieu qui dirige tous les événements, quels qu'ils soient, pour l'accomplissement de ses desseins. Un Dieu ainsi qui veut se mettre, comment dirais-je, à la disposition de la foi pour apporter là à notre cœur toute la confiance, toute l'assurance et que nous pouvons goûter en venant à lui. L'accès de la présence de Dieu nous est toujours ouvert, toujours ouvert. Et alors nous avons justement à répandre notre cœur. Quand David était dans son épreuve, au chapitre 62, dans son psaume 62, ayant fait l'expérience des secours que l'Éternel lui avait apportés dans des moments difficiles, il peut exhorter les saints, les croyants, répandez votre cœur devant Dieu. Et c'est ça. Et alors, étant dans la présence de Dieu, on n'a peut-être pas en effet la réponse aux besoins qui sont les nôtres. Mais on a quelque chose de bien plus précieux. Bien plus précieux, c'est que la paix de Dieu remplit notre cœur. Un chrétien vénéré frère disait justement, dans des moments sans doute comme cela, « Dernièrement, j'ai été ineffablement heureux à la pensée que j'étais l'objet de l'amour de Dieu, cet amour qui prend soin de nous. Et cet amour me réduisait à néant, mais il inondait mon cœur de joie et de paix. » Et de paix. Ce sont des expériences parce que cette épître était une épître d'expérience. Il s'agit, l'apôtre s'adresse à chaque chrétien, à chaque croyant. Ce sont des expériences que nous devons faire. Dieu est tout prêt, tout disposé à nous apprendre ces choses et ainsi à s'approcher de nous avec toute sa grâce, toute sa puissance et toute sa connaissance, parce qu'il connaît parfaitement tout.
Nous, le croyant n'est jamais sans quiétude. S'il jouit vraiment de la présence du Seigneur, son cœur ne sera jamais inquiet. C'est la chair qui est en nous, qui nous amène à être inquiétés et des fois de peu de choses. Mais nous avons ici les ressources qui suivent. Il y a la prière, il y a les supplications, où il y a un degré d'entre les deux choses qui nous amène à jouir de la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance. Mais si nous vivions dans la communion avec le Seigneur, nous ne serions jamais inquiétés par les choses passagères. Et le prophète Ésaïe, dans le chapitre 65, nous dit dans un verset 18, « Réjouissez-vous et égayez-vous à toujours de ce que je crée, car voici, je crée Jérusalem pour être une jubilation, etc. » Dans le psaume 32, nous avons la joie qui commence avec ce psaume 32, et puis, à la fin, il est dit, réjouissez-vous en l'Éternel, au dernier verset, et plus que cela, égayez-vous, juste, vous qui êtes droit de cœur. Ainsi, il y a des ressources qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons penser s'il y a la confiance dans cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence.
Que dans le début de ce paragraphe, l'invitation à nous réjouir, elle se répète. Un des motifs principaux de cette joie qui nous est donnée, c'est le début du verset 6, « Le Seigneur est proche ». Cela vient d'être souligné, la personne du Seigneur, il est proche. Non seulement sa venue est proche, mais lui-même. Et ce qui pourrait alors empêcher cette joie, c'est l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, et ce qui ôtera l'inquiétude, c'est la prière, ce que nous avons ensuite. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7e, l'apôtre, dans les versets 29 à 31, ou début du 32, nous dit, pour commencer, je dis ceci, frères, le temps est difficile. Le temps est difficile. Et il dit ensuite, au début du verset 32, mais je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Dans un temps difficile, où même ceux qui se réjouissent doivent être comme ne se réjouissant pas. Dans ce temps difficile, où nous sommes dans un monde dont la figure passe, ce qui est mentionné donc dans ces versets, le croyant a la ressource. Recevant tout des mains du Seigneur, il réalise sa dépendance de son Dieu, sa dépendance du Seigneur. Et même les choses les plus ordinaires, les plus légitimes de ce monde, dans ce chapitre 7, et les questions du mariage, des joies de la famille, même ces choses-là ne sont pas en elles-mêmes le sujet de joie, mais les recevant du Seigneur et les goûtant avec lui, elles produiront la joie. Mais dans ces circonstances, et même dans les circonstances de la famille, il peut y avoir, et il y a souvent, des sujets de larmes. Mais l'apôtre dit, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Dans ce temps difficile, et aujourd'hui plus qu'alors, la ressource, nous l'avons dans ce paragraphe de Philippiens 4, la prière. Cette inquiétude, ces soucis, nous les déposons. Selon le verset cité au psaume 62, « Répandez votre cœur devant lui », ou selon ce que dit Pierre dans son épître, au chapitre, dans sa première épître, où il nous dit « Rejetant sur lui tout votre souci, car il a soin de vous. » Cette inquiétude qui, dans le cœur d'un homme là-bas, cette inquiétude qui souvent pèse sur nos cœurs, nous n'avons pas seulement à la dire au Seigneur, ces soucis qui nous oppressent, pas seulement les dire, mais les vraiment les répandre devant lui, les laisser sortir de nos cœurs et les rejeter sur lui, rejetant sur lui tout votre souci. Il a soin de vous. Alors l'âme pourra être sereine, pourra réaliser cette dépendance constante de son Dieu, recevant toute chose de sa main. Et ce qui nous inquiète souvent, ce n'est pas tant les choses immédiates, c'est les choses que nous supposons devoir arriver demain. Et combien d'inquiétudes s'élèvent dans nos cœurs à l'égard de ce que nous supposons, de ce que nous envisageons peut-être, craignant le lendemain. Et combien nous avons à prendre note de ce qui a été relevé dans les évangiles des paroles du Seigneur lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Les soucis qui pèsent sur mon cœur à l'égard de ce qui arrivera peut-être demain, mais le Seigneur en prendra soin. Le lendemain, il appartient à Jésus, il appartient à Dieu. Et pour aujourd'hui, soyons dépendants, soyons près du Seigneur, près de son cœur, et pour demain, c'est le Seigneur qui ouvrira la journée, et quoi qu'il arrive, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le psaume 112, encore la citation d'un verset à l'égard de cette même pensée quant à l'inquiétude, il est dit au psaume 112e, quant à celui qui est appelé bienheureux au début du psaume,
Le verset 7 nous dit « Il ne craindra pas une mauvaise nouvelle. Son cœur est ferme, se confiant en l'Éternel. Son cœur est soutenu, il ne craint pas. » Voilà ce qui caractérise celui qui est appelé bienheureux dans le premier verset, parce qu'il prend son plaisir dans les commandements de Dieu, il craint l'Éternel. Et encore au verset 5, « Heureux l'homme qui use de grâce et qui prête. » Ce caractère du croyant qui reflète quelque chose du Seigneur, il ne craindra pas une mauvaise nouvelle. Non pas qu'il soit sûr de ne pas en recevoir une, ce n'est pas cette pensée, mais il ne craint pas une mauvaise nouvelle parce que quoi qu'il arrive, il reçoit tout de la main de son Dieu. Et même ce qui est une mauvaise nouvelle humainement parlant, si Dieu l'envoie, ce sera pour son bien. Aujourd'hui peut-être sujet de tristesse. Aujourd'hui peut-être provoquant les larmes. Mais demain tournant à gloire, à honneur et finalement à la gloire de Dieu lui-même, au bien du croyant déjà sur la terre et bien éternel qui sera manifesté devant le tribunal de Christ.
Nous avons dans le Nouveau Testament un certain nombre d'exhortations à la prière et de passages dans lesquels l'exaucement nous est promis. Nous avons Jean 14 par exemple dans lequel le Seigneur dit « Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai afin que mon Père soit glorifié dans le Fils. » Chapitre suivant. Chapitre 15, au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et il vous sera fait. Dans la première épître de Jean aussi, au chapitre 3, au chapitre 5, nous trouverions des expressions semblables. Mais alors, le croyant pourrait être découragé et se dire, mais voyons, alors je ne connais pas la pensée du Seigneur. Et par conséquent, à quoi bon prier ? On pourrait aussi être découragé en n'ayant pas d'exaucement et en se disant, mais voyons, alors, c'est que je ne connaissais pas la volonté de Dieu, j'ai peut-être prié contre la volonté de Dieu. Et alors on cesserait de prier. Et la vie du croyant se résumerait, au fond, à peu de prières. Or, il nous est dit prier sans cesse. Comment concilier cela ? Eh bien, ce passage est bien précieux, d'autres aussi. Mais il nous montre que nous pouvons prier en tout temps, en exposant simplement, en ouvrant notre cœur, comme on nous a dit, c'est-à-dire en plaçant devant le Seigneur bien des choses à l'égard desquelles nous ne connaissons pas sa volonté d'une manière précise, à l'égard desquelles nous ne savons pas si elles sont pour sa gloire. Mais nous sommes invités à les placer quand même devant Dieu. Mais alors on comprend que Dieu ne puisse pas promettre dans ce cas-là l'exaucement, puisque ce sont des pensées mélangées. C'est l'expression d'un cœur qui souffre, d'un cœur qui justement est inquiet, qui est troublé, qui est perplexe, peut-être découragé. Il a apporté sa prière quand même. Mais il y a une réponse quand même. Ce n'est pas l'exaucement en relation avec la demande précise, puisque cette demande précise, nous ne sommes pas sûrs qu'elle soit selon la volonté de Dieu. Mais nous avons à prier quand même, et nous avons un exaucement quand même. Et cet exaucement, c'est la paix de Dieu qui vient remplir le cœur, c'est-à-dire la sérénité, la tranquillité. On a échangé son fardeau contre la paix du Seigneur. Il s'est fait là un échange. On a un bel exemple dans le cas d'Anne dans le temple. Elle est venue toute troublée, elle a porté sa supplication, ses lèvres tremblaient, elle était là à genoux, le souverain sacrificateur pense qu'elle était ivre, et puis voilà que elle apportait cette demande, n'est-ce pas, dans le temple. Et il est dit que quand elle s'en est allée, elle n'avait plus le même visage. Elle avait vraiment fait cet échange. Elle avait apporté son fardeau à l'Éternel, et puis elle était partie avec la paix de Dieu dans son cœur. Voilà un exemple qui est pour nous bien consolant, bien encourageant. Nous avons à prier sans cesse, même si nous ne savons pas exactement quelle est la volonté du Seigneur.
Domine dans ce passage, n'est-ce pas ?
Nous avons ici plus que l'exaucement de quelques demandes que nous fassions. Nous avons ce qui élève nos pensées et nos cœurs et les garde. Car la paix de Dieu gardera vos cœurs. Il vous gardera. C'est lui-même qui veut vous garder de toute inquiétude. Et en vous remplissant de ce qui est sa paix à lui. Elle dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Et elle est là, toujours, prête, lorsque, avec humilité, dans la soumission, la dépendance, la confiance, nous exposons nos requêtes. Et la pensée de ce lendemain remis à Dieu, et qui peut être exempt en réalité de tout ce que nous craignons, et qui, en tout cas, ne peut pas, n'a pas, ne nous empêche pas de jouir de la paix de Dieu, c'est quelque chose d'important. Un vénéré frère a écrit plus d'une reprise qu'il nous arrive souvent de redouter beaucoup une épreuve qui, lorsque nous l'abordons ou lorsqu'elle nous atteint, quand bien même elle nous atteint, car souvent Dieu permet qu'elle n'ait pas lieu, mais lorsque elle nous atteint, se révèle parce qu'il y a la paix de Dieu qui nous garde, même si nous sommes insuffisants à la recevoir, elle se révèle l'épreuve beaucoup plus facile à traverser que nous pensions. Il y a tout cela. Mais je pense aussi que elles sont nombreuses ici, dans cette salle, et qui ont pu